Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Sortons la tête de l'eau, le podcast qui vous emmène à la rencontre des experts métiers de l'eau et du paysage. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Min Tran Kim, directeur général de Hatch, cabinet de conseil en développement durable. Bonjour Min et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je vais commencer par une première question. Quels sont les bouleversements des villes auxquels s'attendre liés au changement climatique ?
Alors, il y a plein de changements à venir qu'on est déjà en train de vivre pour la plupart, malheureusement, mais d'autres qui vont aller en s'amplifiant. Ce qu'on perçoit le plus souvent, c'est évidemment tout ce qui est lié aux grandes chaleurs. Dans le milieu, on parle aussi des îlots de chaleur qui font que vous avez des endroits dans les villes qui sont plus invivables que d'autres. À l'opposé, vous avez la surconsommation d'électricité ou de gaz parce que, en fait, le climat s'intensifiant et les événements étant de plus en plus intenses, vous avez, il fait de plus en plus chaud, mais il fait également de plus en plus froid. Et donc, on va aller surconsommer de l'électricité ou surconsommer du gaz. Il faut avoir en tête, par exemple, que les logements des Français perdent en moyenne 2,5 degrés, alors que les logements allemands ne perdent qu'un seul degré. Vous voyez qu'il y a une différence notable sur la façon dont on a construit les logements, et donc ça a un impact direct sur notre consommation d'électricité ou de gaz. Comme autre grand phénomène, dans les villes concernées, vous pouvez avoir des grands phénomènes d'inondation, et puis la pollution qui va aller en s'accroissant, puisque avec ces grands épisodes caniculaires ou anticycloniques, vous avez les particules fines qui restent bloquées autour des villes. Alors tout ça, si vous avez envie de suivre tous ces éléments-là, il y a un grand marqueur, c'est ce qui se passe au niveau du C40. Alors, il faut aller sur le site du C40. Donc, le C40, c'est quoi ? Ce sont les 100 plus grandes villes. Alors, elles étaient 40 au départ, d'où le nom de C40. Mais maintenant, il y en a plus d'une centaine. Donc, c'est plus de 100 villes à travers le monde qui se sont regroupées. Et donc, c'est des initiatives des maires de ces villes-là. Et donc, ça dépasse les États. Et ils discutent et ils essayent de mettre ensemble les solutions pour lutter contre le réchauffement climatique, notamment. Donc, on retrouve des grandes villes du monde entier, mais les grandes villes d'Europe du Nord qui sont très avant-gardistes, comme Rotterdam, Amsterdam, Oslo, Stockholm, Copenhague, etc. Et donc, ça, c'est important à suivre. Et je vous engage à regarder ce qui s'y passe.
Quelles vont être les grandes tendances qui se dessinent dans la transformation des villes, justement, pour faire face à ces changements climatiques ?
Alors, ce qu'on voit très clairement, c'est le fait de ramener la nature en ville. Donc ça, on le voit parce que toutes les grandes métropoles, l'autre jour, on avait discuté avec la métropole lyonnaise, ils veulent réimplanter 1 million d'arbres dans la métropole lyonnaise. Donc ça, c'est un marqueur très, très fort. Ils parlent de taux de canopée. Donc, c'est comment est-ce que, si vous prenez des photos vues du ciel et que vous regardez la surface couverte par les arbres, et ben, ce taux-là, cette superficie-là, elle augmente au fil des années. Donc ça va être un grand marqueur. Et puis, vous le voyez également dans les prises de position des grands promoteurs immobiliers où ces enjeux de remettre du vert dans leur programme est de plus en plus prégnant. Et puis aussi, à quel point les immeubles, les résidences qui ont du vert ont pris de la valeur, notamment aussi accentué par le Covid, où quand vous aviez un coin de nature pas loin, votre logement se valorisait. Donc, première grande tendance, ramener la nature en ville. Le deuxième, lié au réchauffement climatique et à l'utilisation d'énergie, c'est comment on travaille sur l'efficacité énergétique. Le deuxième, ça va être aussi, et on est en plein dedans en plus avec la guerre en Ukraine, c'est comment est-ce qu'on arrive à garantir une meilleure autonomie alimentaire et même, j'irai plus loin, sur retrouver un peu les principes d'il y a 100 ans au niveau des villes françaises et comment est-ce qu'on arrive à nourrir localement les populations. Et puis le quatrième, qui est un élément plus social, c'est comment est-ce qu'on peut créer des villes plus inclusives, qui vont être plus participatives et qui vont faire en sorte que les citoyens s'approprient et reprennent un peu le pouvoir sur là où ils vivent.
Comment saisir ces nouvelles opportunités quand on est au service des collectivités locales ?
Quand on ramène la nature en ville, donc je l'ai un peu cité, c'est travailler sur tous ces éléments qui permettent de lutter contre ces phénomènes extrêmes dont j'ai parlé. Donc, îlots de chaleur, là, on va travailler sur le green roofing, par exemple. C'est quoi? C'est comment est-ce qu'on arrive à avoir des solutions qui permettent d'équiper, imaginez tous les toits des grandes villes parisiennes qui sont plus vertes et donc qui vont mieux absorber la chaleur, qui vont du coup réduire les températures qu'on a toit. Ça peut être un exemple de solution aux collectivités et puis plus largement aussi aux entreprises. Roofing, vous allez avoir autour des infrastructures vertes. Alors, les infrastructures vertes, comment est-ce qu'on évite les infrastructures à l'opposé, les infrastructures grises, c'est-à-dire le béton? Comment est-ce qu'on peut repenser les espaces pour que la nature va faire son rôle tout seul? Je vous donne un exemple. C'est par exemple les noues. Donc, c'est quoi les noues? C'est avoir un espace qui est prévu pour que si jamais il pleut beaucoup, un espace qui va absorber, qui va se remplir d'eau, donc un espace vert, par exemple, végétalisé, qui va réceptionner l'eau de pluie et qui va faire comme des mini-étangs, le temps que cette eau, après, soit intégrée par la terre. Et donc, ça va éviter que ça déborde sur les rues et que du coup, vous vous retrouvez avec des systèmes, des canalisations complètement débordées et que vous ayez de l'eau au mollet. Et donc, par exemple, toutes les grandes villes nord-européennes, lorsqu'elles briefent les grands acteurs du paysage, vous avez maintenant des solutions qui sont demandées aux grands acteurs du paysage de comment est-ce qu'on peut anticiper ces grandes catastrophes potentielles à venir, donc des épisodes orageux qui font qu'il y a des intensités de pluie très fortes, et éviter que tout le système d'égout soit à saturation. Donc, on va pouvoir mettre en place ce genre de choses. Deuxième, sur tout ce qui est efficacité énergétique, on a parlé du green roofing. Comment est-ce que vous allez pouvoir aussi travailler systématiquement pour évaluer l'impact carbone de votre chantier, des solutions que vous allez proposer aux municipalités en leur disant quand je fais ça ou quand je fais ça, ça a un impact carbone. Aidez-vous en tant que collectivité à réduire votre impact carbone. Évidemment, tout ce qui est lié, alors on parle un peu moins de carbone, mais c'est quand même lié à l'environnement, c'est lié à tout ce qui est lié aux déchets. Le grand sujet de tous les promoteurs immobiliers, par exemple, c'est les chantiers zéro déchet. Donc, comment est-ce qu'on peut se positionner pour toujours avoir des solutions pour réduire les déchets, être capable de les comptabiliser, à mieux les flécher et faire en sorte que ça ne parte pas en incinération directe, mais qu'il y ait une vraie valorisation des chantiers de déchets.
Et sur les déchets, il y a une loi.
Il y a une loi qui est en train de s'appliquer, mais entre j'ai une loi et je l'applique, il y a un monde. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à être exemplaire là-dessus et faire en sorte que... Et puis, il peut y avoir aussi des surcoûts. Et comment est-ce qu'on fait en sorte pour que ce soit vraiment réalisé dans les faits, quoi. Donc, avec pas mal d'acteurs avec lesquels on a travaillé, souvent, ils disent, oui, il y a la loi, maintenant, on se met en ordre de marche d'eux et on cherche des partenaires qui nous aident ou en tout cas qui sont dans le même état d'esprit que nous, de telle sorte qu'on applique vraiment la loi. Il faut avoir en tête que les services de l'État, malheureusement, sont souvent sous-dimensionnés par rapport à leurs tâches de contrôle. Et donc, mais maintenant, d'un point de vue développement durable, éthique et business, j'ai envie de dire aussi, les offres de services qui vont dans ce sens-là fonctionnera toujours comme étant un acteur avec qui les collectivités auront envie de travailler. Troisième, qui est le nourrir localement. Aujourd'hui, il y a plein de solutions comme vous pensez à Agricool. En fait, c'est une start-up qui a monté des containers dans lesquels on peut cultiver des fraises, par exemple. Il y a des tendances à ce que la grande distribution également crée des fermes urbaines. Auchan a créé plein de fermes urbaines. Pouvoir nourrir localement et après, hop, que ça se retrouve dans le caddie assez vite derrière. Autre élément, ça, c'est le groupe Accor qui a végétalisé et mis des potagers sur quasiment tous les toits de ces hôtels. Et donc toute l'idée derrière, c'est comment est-ce qu'on peut se positionner pour proposer aussi aux collectivités que les espaces verts ne soient pas juste des espaces verts d'agrément, mais également, éventuellement, deviennent des espaces verts productifs. produire donc des herbes, des aromatiques, mais également des fruits et autres, et favoriser la naissance d'AMAP, ce genre de choses. Et ça fait le lien avec la quatrième tendance, c'est comment est-ce qu'on arrive à être un peu plus inclusif et à embrigader et à embarquer plus les citoyens. Et donc là, vous avez sens, c'est très très fort, c'est une tendance anglo-saxonne qui est très très forte, mais qui naît de un peu partout en France. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer des lieux partagés avec des associations locales, comment est-ce qu'on met à disposition notre savoir-faire, par exemple, de paysagiste au service des collectivités pour expliquer les bons gestes, expliquer ce qui se passe dans la nature, expliquer comment, maintenant que la loi zéro phyto est passée dans les lieux publics, comment est-ce que nous, acteurs du paysage, par exemple, on a réussi à travailler nos paysages, donc les différents jardins accessibles au grand public, comment est-ce qu'on a réussi à faire en sorte de se passer du zéro phyto et comment est-ce que finalement c'est bien meilleur pour l'environnement, pour la santé de ceux qui s'y promènent, et également pour la biodiversité. Là, par exemple, ça pourrait être d'avoir des portes ouvertes qui soient un peu systématiques avec les écoles d'un quartier, des établissements, des associations. Voilà. Comment est-ce qu'on recrée du lien entre vous, acteurs du paysage, et les collectivités, et de faire en sorte que en fait, tout le monde regarde dans le même sens et profite pleinement de ces lieux qui sont des lieux de vie, en fait.
Merci Mine. C'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de Sortons la tête de l'eau. Merci à Mine Tran Kim d'avoir accepté de partager avec nous son savoir et ses précieux conseils. Merci pour cette générosité. Chers auditeurs, si vous avez des commentaires bienveillants ou constructifs ou des idées de sujets pour de nouveaux podcasts, partagez-les sur l'adresse communauté@hydralliance.com. Et si vous souhaitez écouter nos autres épisodes, consultez notre page communauté.hydralliance.fr. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sortons la tête de l'eau.